temps des cerises.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moqueur seront tous en fête.
La Commune de Paris de 1871 racontait.
La folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonjour Jean-Marie Favière, vous êtes le vice-président des Amis et Amies du comité Berry de la Commune de Paris 1871. Et comme on est en province, on pourrait dire aussi des communes de province. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à la Commune de Paris? Édouard Vaillant ou d'autres choses?
Eh bien, un peu les deux, mon capitaine, hein, puisque les deux sont liés. Édouard Vaillant, pour moi, c'est premier, j'étais professeur donc de lettres et de cinéma au lycée Édouard Vaillant. J'ai fait, quand on a ouvert notre option cinéma, mon premier projet sur Édouard Vaillant, parce que je me suis aperçu que c'était un inconnu ultra célèbre, étant donné qu'on avait des noms de lycée et puis surtout des noms de rue, tout le monde dit « je connais Édouard Vaillant ». Et quand j'ai fait des micro-trottoirs, je me suis aperçu qu'on ne savait pas du tout quelle était son œuvre, son action, son rôle. L'une des plus approchantes m'a dit que c'était un ministre de l'Intérieur, donc on était assez loin du compte. Hein. Alors j'ai pensé qu'il fallait le populariser, donc ça date de longue date. Et on m'a demandé ensuite, quand j'ai beaucoup parlé d'Édouard Vaillant et de sa carrière de député, on m'a demandé pourquoi il était aussi inconnu finalement. Les journalistes se sont intéressés à ce phénomène. Et parmi les raisons, il y en a plusieurs, donc je fais bref, c'est que Édouard Vaillant, effectivement, a eu un rôle important comme député, comme Jaurès et Guède, etc., à la fin de la Troisième République, mais auparavant, c'est le seul de ces grandes figures qui a eu un rôle éminent pendant la Commune de Paris. Et comme la Commune de Paris est occultée de notre mémoire républicaine bourgeoise, je dirais pour aller vite, eh bien, Édouard Vaillant a été lui-même mis sur la touche pour cette raison-là. Donc les deux, hein, la Commune, parce qu'on ne peut pas parler d'Édouard Vaillant sans parler de la Commune.
Et par ricochet, nous en reparlerons tout à l'heure, Félix Piat, les frères Okolovitch et d'autres personnages vierzonais.
Exactement. Et vous savez, Michel, que puisque vous êtes le président de cette association des Amis Berrichon de la Commune de Paris, dont je suis le vice-président chargé de la communication, que nous faisons toujours ensemble ce que nous pouvons pour réveiller ces souvenirs-là. Un Félix Piat, par exemple, n'est pas l'obscur personnage qu'on prétend souvent. C'était même l'un des grands auteurs de théâtre de la fin du XIXe siècle, aussi connu que Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Et les frères Okolovitch, eh bien, ils figurent dans toutes les narrations de la Commune de Paris parce que l'un d'eux, Auguste, est grimpé, par exemple, le jour de la proclamation, sur le génie de la Bastille pour y ficher un drapeau rouge.
Oui, ils étaient très liés aussi avec le milieu musical. C'est d'ailleurs assez réjouissant qu'il y avait Francisco Daniel qui a été directeur du Conservatoire de Paris et qui était de Bourges, et les frères Okolovitch qui sont très liés au milieu de la musique.
Voilà, oui, ça vient du père qui était à la fois musicien et tailleur et qui était un exilé venu de Pologne. Hein. La Pologne a donné aussi beaucoup de communards parce que évidemment ils étaient des férus de par leur histoire des guerres d'indépendance et beaucoup d'étrangers sont venus pour cette raison-là soutenir la commune de Paris à cette époque-là, notamment dans l'armée des Vosges garibaldienne.
Alors, pour faire connaître la commune, vous avez plusieurs angles d'attaque. Le livre, bien sûr, parce, et c'est d'ailleurs réjouissant que dans cette année qui vient de commencer du 150e anniversaire, de nombreux livres continuent de paraître. Il y a des historiens, que ce soit des historiens hors de France ou des historiens, de jeunes historiens, qui publient des ouvrages, mais et vous avez fait plus, vous dites que vous avez été responsable cinéma au lycée Édouard Vaillant, vous avez créé un blog qui s'appelle Vaillantitude. Alors déjà, expliquez ce titre, Vaillantitude.
Alors, j'ai deux passions, en fait, maintenant. Hein. C'est Édouard Vaillant, on le sait, puisque j'ai écrit deux gros volumes sur lui. Hein, le premier, c'est surtout le Vaillant de la première période, c'est-à-dire de la Commune de Paris. Et le deuxième, c'est le Vaillant socialiste député qui va être le principal artisan de l'unité socialiste. Gilles Candard, le grand historien de Jaurès, dit même que c'est Édouard Vaillant et ou l'invention de la gauche. Mmh. Il permet l'unification sous la dénomination de SFIO en 1905, en réconciliant les deux irréconciliables, Jaurès et Guède. Alors, c'est ce mot vaillantitude, j'ai dit que j'avais deux passions, la deuxième c'est Brel. Hein. Je suis en train actuellement, comme j'ai fait pour les premiers ouvrages de la fille de Brel, France Brel, en train de corriger son opus qu'elle est en train de mettre sur le chantier actuellement. Je travaille en permanence avec eux. Et on a fait une place Jacques Brel à Vierzon parce que c'est un vieux combat que je veux aussi mener, c'est-à-dire associer deux images positives à Vierzon, ma ville natale, c'est-à-dire Édouard Vaillant et Jacques Brel. Et Brel parlait de sa belgitude. Alors après, c'est devenu très courant. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des suffixes en études. Hein. On se souvient de la muraille de Chine avec Ségolène Royal, parlant même de bravitude. On invente des néologismes à partir de là. Eh bien, moi, j'ai fait ma vaillante attitude. Alors, il y a le côté aussi Johnny Hallyday derrière, hein, la rock attitude, etc. Et bien sûr, j'ai une vaillante attitude, c'est-à-dire une volonté de promouvoir la mémoire d'Édouard Vaillant, pas seulement pour le passé, encore une fois, mais toujours dans un esprit de concordance des temps, parce que j'ai pensé aussi, si je suis venu à la Commune, que la Commune était la clé de notre époque. On n'y comprend rien, on ne sait pas ce que c'est de gauche, qu'est-ce que c'est que c'est cette République qui trahit ses valeurs, etc. Eh bien, la clé, l'explication pour moi, n'est nulle part ailleurs, fondamentalement, que dans ce qui s'est passé à la Commune de Paris, dans ces quelques mois de 1871.
L'actualité, on revient à Édouard Vaillant, l'actualité, je dirais, plutôt malheureuse, que nous avons découvert dans notre journal local, le Berry Républicain, fait peser une menace sur l'hôpital spécialisé de Chezal-Benoît. Et beaucoup ne savent pas que c'est l'action du conseiller municipal parisien Vaillant qui a fait s'installer ces établissements spécialisés dans notre région d'Ain-sur-Oron, Chezal-Benoît et Nel-Château. Est-ce que nous pouvons, nous, descendants d'Édouard Vaillant, peser sur, modestement, mais historiquement, sur le devenir de Chezal-Benoît. Qu'en pensez-vous ?
Alors oui, ça me rappelle que Patrick Picard, hein, qui est un tenant de la laïcité, mais qui était surtout responsable de la MGEN il y a quelques années, m'avait demandé de faire un article sur ce sujet-là dans la revue de la MGEN, hein, c'est-à-dire la mutuelle de l'éducation nationale, pour le Cher. Alors, effectivement, j'avais rappelé que Édouard Vaillant, alors il était Il était député même à l'époque de Paris, il avait une influence, mais il était aussi médecin, on le sait, et il faisait partie, il était une figure importante du comité d'hygiène. Et c'est à ce titre qu'il a décentralisé ce qui faisait un peu embouteillage à Paris, et puis qui n'était pas dans de bonnes conditions sanitaires, les gens qui avaient des handicaps mentaux en province. Et évidemment, comme il était du coin, du Cher, il a pensé... d'abord à Dun-sur-Auron et par la suite, c'est vrai, Chazolles-Benoît et Nelvieille et Concordance des temps. J'ai vu aussi dans la presse, comme tout le monde, qu'il y avait menace sur ces institutions maintenant. Donc il est de notre devoir, je dirais, historique et par filiation de communard, de s'y opposer et de défendre ce service hospitalier important.
Alors, j'en reviens à la création de ce blog Vaillantitude. Que mettez-vous dans ce blog? Et est-ce que les archives, ce blog contient les archives depuis sa création et on peut s'y référer en cette année du 150e anniversaire?
Alors, c'est ça, oui. C'est à la fois un outil actif, c'est-à-dire un outil de combat. On est militant. Hein. On sait que c'est attaqué, la Commune de Paris. D'ailleurs, je viens de voir que pour le 150e, la presse n'est pas toujours favorable. Hein. J'ai des alertes sur Google Commune de Paris. Et je vois, par exemple, que le directeur adjoint du Figaro, Jean-Christophe Buisson, a formé 21 vœux pour 21. Et c'est censé être humoristique. Et parmi ses vœux, hein, il annonce la sortie de films qui l'intéressent, enfin, etc., des bonnes émissions à la télévision, mais il dit aussi qu'il espère que les gens de la gauche, opposition à Macron, viendront chanter sur les plateaux de télévision la gloire de la Commune de Paris en oubliant ses méfaits, ses exactions et ses massacres. Voilà, donc c'est assez bien de voir cette propagande qui commence déjà à inverser les rôles. Hein, et je rappelle quand même que les communards ont été 200 fois plus victimes, à 300 fois plus victimes de massacres que les adversaires des communards eux-mêmes. Hein. Donc le rapport de force, un peu de décence, messieurs du Figaro. Mais on est habitué et ce sera effectivement militant. Alors, ce que je mets dedans, oui, il y a des archives, on a un moteur de recherche qui permet de les retrouver. Alors j'ai fait un peu comme Michel Audin qui va le faire pour le 150e, c'est-à-dire que je me suis astreint. Je crois que dans le journal d'aujourd'hui, il y a un mot berrichon pour dire ça, c'est-à-dire que être dans la nécessité, ça veut dire avoir congé d'eux. Donc j'ai eu congé de tous les jours mettre une page pour parler d'Édouard Vaillant. D'une certaine façon, ses citations, etc. Tous les jours de l'année 2015, qui est une année vaillantique, puisque c'est le 100e anniversaire de sa mort. Voilà, alors j'ai mis quoi depuis ? Eh bien, depuis, c'est devenu le blog officiel du comité du Berry de l'association. Donc, dès qu'on fait une réunion, dès qu'on fait une action, dès qu'on fait quelque chose, c'est les archives qui sont dedans. Hein. Et il y a une partie vidéo aussi, parce que je filme. Hein. Par exemple, notre AG de Saint-Georges, j'ai filmé, j'ai mis en ligne. Il y a des conférences dans les vôtres, Michel. Hein. Il y en a d'autres qui attendent. Par exemple, Félix Piat à Vierzon, c'est pas encore mis en ligne, mais ça se fera fait pour le 150e. J'ai fait une conférence aussi dans Lyon, la patrie de la mère d'Édouard Vaillant, Ambroisine Vaillant à Ancilfranc. Je l'ai filmé, enfin mon fils l'a filmé, et ce sera aussi mis en ligne. Bon, quand il y a eu l'exposition Kanak à Bourges, je l'ai aussi filmé assez vite. Je filme tous les ans les cérémonies sur la tombe d'Édouard Vaillant, avec alternance du Parti communiste et du Parti socialiste, et tout ça est mis en ligne. On a aussi des écrits, hein, des textes. Par exemple, on s'est interrogé sur la façon dont oui, c'était à l'Antidote de Bourges, dont la commune était enseignée ou pas enseignée dans les classes. On a fait une discussion à ce sujet avec un inspecteur d'histoire, hein, Pascal Jardin, et c'est effectivement, ces écrits-là sont sur notre blog.
Bien, bien. Et j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas que sur la commune, nous relatons les mouvements sociaux, par exemple, quand le peuple descend dans la rue ou qu'il intervient, etc., parce que eh bien, c'est tout à fait dans l'esprit de cette commune de 1871. Alors, comment faites-vous pour être à l'affût de l'actualité? Bon, pour le passé historique, ça paraît évident, puisqu'il y a quand même de nombreuses sources, mais être à l'affût de l'actualité?
Alors, pour ça, évidemment, je suis maintenant repéré. Dans les manifestations où j'ai participé, là, pour les Gilets jaunes, certains m'appelaient même Édouard. Hein, donc, et j'ai des gens qui m'informent, hein, voilà, dont vous faites partie. Moi, je reçois, par exemple, de la part de Michel Pinglot, de Johan Kahn, ou de Christiane Carlu, qui est notre spécialiste pour les questions artistiques, je reçois des choses et on me dit, est-ce que c'est intéressant pour le blog? Bien entendu. Je les mets dans le blog. Alors, il y a la presse locale aussi qui diffuse, mais il y a la presse nationale. Et puis, j'ai une alerte, encore une fois, sur Internet avec Google automatique. Donc, dès qu'il y a des choses, hein, je les prends. Par exemple, là, je regarde ma dernière page. Au Palais Galliera, autopsie du dernier costume d'un condamné,
ah, oui,
comme on dit. Hein, c'est le président Bonjean. Voilà, sur lequel on s'apitoie. J'en ai fait une page de concordance des temps déjà. Et puis...
page excellente, je dois dire, et qui nous montre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les adversaires de la commune, eh ben, sont déjà sur le pied de guerre.
Voilà, eh ben, ils nous intéressent d'ailleurs parce que le pire qui soit arrivé à la commune depuis l'amnistie faussement républicaine de 1880, c'était... à la condition expresse qu'on l'oublie, qu'on mette une chape d'oubli dessus, ce sont les paroles de Gambetta, et qu'on n'en parle plus. C'est le pire. Alors, moi, les ennemis qui attaquent la commune, c'est pour nous, c'est du pain béni, parce que ça nous permet de répliquer, et ça la fait connaître, ça la sort de l'ombre. Le pire, c'est l'indifférence. Et nous avons aussi des érudits locaux qui ne sont pas spécialement intéressés par le côté militant, idée de gauche de la commune, mais qui sont des historiens très sérieux et très compétents. Je pense à Alain Leclerc, l'archiviste municipal de Vierzon, qui a fait un travail extraordinaire pour exhumer tout ce qui était important pour Vaillant localement. Et puis l'historien, le président du cercle historique de Vierzon, Frédéric Morillon, qui sont mes amis. Il a été mon collègue quand j'étais Édouard Vaillant en histoire. Et il m'abreuve. Hein. Il y en a un qui fait aussi sur la ville de Vierzon l'archive du vendredi. Et dans l'archive du vendredi, par exemple, je relais ce qu'ils mettent, par exemple, les Hulans à Vierzon, la résistance communaliste à Vierzon. Voilà.
Oui, oui.
Et d'ailleurs aussi, tiens, je viens d'acheter la revue d'histoire spécialement consacrée au 150e de la Commune de Paris. Dedans, il y a une carte avec les villes qui sont censées être communardes, qui ont eu des communes, et Vierzon, en plus petit que Narbonne, Le Creusot, etc., est aussi dedans.
Alors
d'ailleurs,
vous...
puisque je viens de mentionner le Creusot, je fais Flèche de Toutbois. Vierzon est ville-étape pour le Tour de France cycliste, et c'est important pour la ville, ça fait beaucoup parler, et c'est la plus longue étape qui va aller de Vierzon au Creusot.
Ah ben oui.
Mais voilà, je rappelle aussi qu'on est dans le Tour de France des villes communards de l'Association nationale, hein, puisque Jean-Louis Robert, l'historien national, va faire une conférence à Vierzon, comme il le fait à Marseille, à Limoges, etc. C'est-à-dire toutes les villes qui ont eu des communes. Et Vierzon a été rajouté parce qu'effectivement, il y a cette activité révolutionnaire, mais aussi parce qu'il y a des grandes figures, comme Édouard Vaillant et Félix Piat.
Vous voulez parler, vous faites allusion à la revue, vous voulez parler du hors-série L'Histoire,
oui,
les collections, ben oui, qui vient de paraître ces numéros de décembre, mais heureusement, il y a un ami qui doit être abonné, qui nous l'a signalé déjà depuis 3 semaines, mais il vient de sortir, et effectivement, donc nous incitons les lectrices et les lecteurs et auditrices et auditeurs de Radio Résonance, ce numéro, l'histoire, les collections, la commune, le grand rêve de la démocratie directe, et on parle du 18 mars, de la guerre civile, de Marx, de la semaine sanglante, on dit même du côté des Versaillais, querelle de chiffres, oui, certainement à propos du massacre de la semaine sanglante.
Parce que parmi les rédacteurs, il y a Robert Thom, dont on sait qu'il a été un minimaliste dans la façon de faire les décomptes.
C'était, d'ailleurs, ça se ressent, on était sur l'estimation de 30 000, et bien il y a même des amis de la commune qui sont passés à 20 000. Donc c'est important, cette histoire des chiffres, et puis 72 jours qui ébranlèrent le monde. Donc,
oui, si je peux me permettre, Michel, je me la suis procurée, j'ai regardé, et vous savez qu'on projette à Bourges pour le 150e une exposition sur Louis-Nathaniel Rossel, ce seul officier officiel, je dirais, de l'armée française à avoir pris part à la commune. Eh bien, dedans, on en parle abondamment et il y a de l'iconographie intéressante qui pourrait servir aussi à notre exposition.
Oui, rappelons que ce comité local Berrichon est très ouvert au niveau des courants de pensée, le courant, ça va, disons, du courant libertaire, jusque vous avez cité Monsieur Morillon, etc. Faut le constater, le général Zeller qui a écrit Les Hommes de la Commune et qui justement a apprécié le rôle de Rossel. Sa part, il dit les communards ont été des patriotes contre le défaitisme de l'armée française contre les Prussiens. Et puis, moi, en tant que chrétien, les décrets sociaux me vont parfaitement. Ça, il faut le rappeler.
Oui, il y a l'idée que nous ne sommes pas sectaires, mais avant tout des pédagogues, en ce qui me concerne, et soucieux surtout de la vérité historique. On n'aime pas qu'on mette sous le boisseau quelque chose. Mais pour le reste, nous sommes militants, nous ne le cachons pas, mais nous sommes des militants ouverts. Nous savons que la commune elle-même, d'ailleurs, a été très variée. Il y avait des gens qui venaient à Paris, qui se sont battus contre les Prussiens, mais presque en tant qu'admirateurs de Napoléon III et de l'Empire, venus de l'extérieur, parce qu'on attaquait cette France-là. Et on sait bien qu'autour de Gaulle, il y avait effectivement des gens très à gauche, il y avait aussi des gens très à droite parmi les premiers résistants. Ils n'étaient pas tous collaborateurs, surtout sur la ligne du patriotisme.
Alors, je vais pas vous demander d'être devin, mais est-ce que nous allons pouvoir, dans les conditions actuelles, alors que les théâtres, les cinémas, les cirques, je dirais même les restaurants, parce que nous donnons conférences, par exemple, à l'Antidote, etc. Nous avons donné des conférences dans le restaurant des Marais de Bourges. Est-ce que vous êtes optimiste pour 2021? Charlie Hebdo et Ciné ont titré comme vœu Bonne année 2022, ce qui voudrait dire que 2021, ça va être difficile.
Non, on ne peut pas enjamber 2021 quoi qu'il arrive. Même en 2020, avec les conditions sanitaires, je rappelle qu'on a quand même été fêté Édouard Vaillant, même si c'est en petit comité, qu'on a quand même été faire une fosse. fond, pour ne pas dire baptême, hein, de la rue Okolovics. Donc, il n'y a pas de doute qu'on fera quand même quelque chose. Quant à être devin, je viens d'écouter une émission radio, mais sur une autre radio, qui rappelle les prédictions des devins pour l'année précédente. Ce n'est pas une réussite, donc je ne dirais pas comme ça. Il y en a beaucoup qui disaient 2020, bah, c'est une année fade, il ne va rien s'y passer. Voilà. Bon, d'accord, aucun événement notable. Donc on a, et puis aussi on prévoyait que M. Coulon serait haut la main réélu maire de Lyon. Donc là les prédictions par les temps qui courent, surtout avec la gestion particulièrement efficace avec beaucoup de guillemets de nos gouvernants actuels, non, ce n'est pas possible. Voilà. Mais on sera sur le terrain, on fera ce qu'on a à faire. Et bien entendu, oui, je suis optimiste pour les résonances, j'emploie ce mot à dessein, que ça aura dans l'opinion, parce que bon, il y a la presse, parce qu'il y a le blog, et puis parce qu'on fera des manifestations à l'extérieur, avec ou sans masque.
Alors, cinéma, est-ce que vous pouvez dire, j'ai à peu près rassemblé tout ce qui a trait à la Commune de Paris, depuis la Nouvelle Babylone, jusqu'aux dernières productions, et on parlait de Rossel tout à l'heure, un film de Jean-Pierre Chevènement qui avait traité du sujet sur Rossel. Est-ce que vous pouvez être fier de votre action dans ce blog de tout ce qui concerne le cinéma sur la
Commune? Ah oui, alors j'ai fait des conférences, hein, sur le cinéma, j'ai tout rassemblé, y compris les films qui n'ont pas pu avoir lieu, comme le film de Jean Grémillon qu'il prévoyait sur la Commune de Paris. Bien entendu, oui. Alors, le Peter Watkins, hein, qui fait 5-6 heures, est une grande référence. La Nouvelle Babylone aussi, puisque c'est un long métrage. Il y en a d'autres, mais la conclusion que je fais, c'est que la Commune étant occultée de la mémoire républicaine versaillaise depuis 1880, eh bien, le cinéma n'a pas financé de grands films sur la Commune de Paris, et c'est une lacune, et il faudra à un moment qu'on s'y emploie. Hein, il faudrait par exemple que, à court terme, on sait que l'action nationale, c'est de faire baptiser une station de métro Belleville Commune de Paris. Et on sait que la RATP rechigne, hein, malgré l'avis positif des députés et des politiques de Paris. Voilà, donc il faudra aussi que les producteurs mettent de l'argent dans un film qui traite de la Commune. Alors est-ce que le 150e forcera les portes? Ben, je l'espère.
Et de même,
avec des vedettes, pour Louis Rossel, c'est André Dussolier. Hein,
oui, voilà. Alors, je crois que vous avez récupéré ça, et puis que nos amis de Bretagne l'ont diffusé déjà. Donc, ça sera...
Je suis prêt à le diffuser dès qu'on pourra avoir l'occasion de le faire, bien entendu, oui.
Pour le titre du film sur la Commune, il y en a déjà un, c'est « Paris brûle-t-il ?»
Ah oui, Paris a brûlé alors.
J'ai une question, Vierzon, capitale culturelle de la France en 2022, est-ce que Vaillant est un argument?
Alors, pour la municipalité, bien entendu, puisqu'on connaît la proximité. D'ailleurs, dès qu'ils ont entendu qu'on était actif là-dessus, le maire a fait aussitôt une réunion en mairie où il m'a convoqué avec son service culturel pour qu'on soit actif. Alors évidemment, il y a des salles qui vont être en travaux comme la médiathèque qui n'auront pas accès, mais il a tout de suite donné la décale pour la conférence avant même d'être élu d'ailleurs, hein, il l'avait fait, j'ai la lettre dans ma poche, il nous donne la décale pour la conférence de Jean-Louis Robert et j'ai pris contact avec la salle multimédia centrale de Vierzon, place Jacques Brel, qui s'appelle Microfolie, et le gérant est un ami. Il m'a aussi demandé si un participant, enfin on s'est réciproquement demandé en fait, et j'ai dit qu'on était ouvert pour toutes les dates qu'il aura de disponibles dans son calendrier, eh bien, les occuper avec un thème sur la commune et les femmes, la commune et les artistes, les œuvres sociales de la commune, la commune et l'éducation, bien entendu. Enfin, voilà, on est prêt à être très actif à Vierzon. Il y aura même un parcours communard à partir de la mémoire d'Édouard Vaillant, par exemple. On a les maisons natales, on a jusqu'au cimetière, en passant par le lycée, et puis aussi en s'appuyant sur les noms de rues, parce que Vierzon a plein de rues de communards ou de gens qui ont inspiré la commune, comme Auguste Blanqui, bien entendu, qui a été arrêté juste avant. Voilà. Il n'y en aura qu'une par département, ville de ce type, et Bourges étant sur les rangs avec d'autres arguments, je suppose que Vierzon a fait un dossier pour bien enfoncer le clou et profiter de la publicité sans un immense espoir, mais bien décidé à effectivement promouvoir ce côté ouvriériste, industriel, et tourné vers l'avenir aussi. Hein. Microfolie, c'est de la nouvelle technologie de Vierzon qui essaie de sortir, évidemment, de la perte de son industrie avec l'usine CAS dans les années 90-95.
Ben, nous sommes un peu dans la suite, je dirais, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne vient d'être exclue de l'Europe, mais en Grande-Bretagne, le patrimoine industriel, ouvrier, est très important et est préservé. C'est l'objet de présence mémorielle importante, ce que nous ne faisons pas en France, et notamment dans le Val de Loire, où bien sûr la présence des châteaux de la Loire occupe à la fois budgétairement et idéologiquement une grande place, hein, par rapport au Cher, la rivière, la Loire, fleuve royal, le Cher plutôt, rivière industrieuse depuis Montluçon, Doméra, Commentry, etc., juste en passant par Vierzon et Saint-Pierre-des-Corps, etc.
Oui, c'est vrai, on est plus dans le cadre Stéphane Bern et couronne royale que prolétariat, etc. Bon, dans le Nord, dans d'autres endroits, c'est vrai que c'est plus actif, hein, dans ce domaine-là du patrimoine, mais on a passé un loto du patrimoine pour le patrimoine ouvrier et industriel, ça c'est vrai.
Eh bien, Jean-Marie Favier, avez-vous d'autres choses à rajouter? Vous le rajouterez dans le blog Vaillantitude, pour notre émission, pour nos auditrices et nos auditeurs, un dernier message à confier. Rendez-vous fin janvier pour célébrer la naissance d'Édouard Vaillant. Nous y travaillons, c'est nous qui avons initié cet anniversaire. On célèbre la mort au mois de décembre, et nous avons pensé que c'était de notre devoir de célébrer aussi la naissance, et nous l'avons fait l'an dernier, 2020, parce que Édouard Vaillant est né en une année zéro, 1840. Et je rappelle aussi qu'il y a 23 communeux issus du Cher, qui ont comme année de naissance une année en 1, depuis 1811 jusqu'à 1851. Vous, le spécialiste du cinéma, vous connaissez fort bien avoir 20 ans dans les Aurès, eh bien, il y a des communeux du Cher qui ont eu 20 ans sur les barricades dans Paris.
Oui, alors je pense que vous êtes appuyé sur notre Bible du 150e, hein, qui est l'excellent bouquin qui répertorie l'ensemble de ces communeux locaux. Hein, c'est Jean-Pierre Gilbert qui a fait des notices biographiques et qui nous seront bien utiles. Alors, si j'ai un dernier message à donner, eh bien, c'est de ne pas voir la Commune de Paris comme quelque chose de passé. La Commune a eu beaucoup d'idées qui n'ont pas abouti du fait de la répression, mais qui ont essaimé mondialement. Alors, ces messages, c'est de dire que ce n'est pas un événement purement parisien. Parmi les dernières publications, il y a le livre sous la direction de Quentin Duluy-Armoz qui parle des communes. Et les communes de province n'ont pas été aussi minables qu'on le dit là aussi généralement, voulant minimiser et tout ramener à Paris qui est important, mais pas que. Et si ça a duré peu de temps, il y a une bibliographie énorme parce que ça a eu un retentissement énorme, cette Commune de Paris. La Chine, par exemple, s'en est beaucoup souciée. Tous les mouvements d'Amérique latine, d'Afrique, etc., c'est mondial. L'Algérie a eu aussi sa commune. La résonance, encore une fois, ce mot me vient spontanément, on se demande pourquoi, mais la résonance de la commune dans le monde, c'est quelque chose que l'on découvre de plus en plus avec les jeunes historiens et aussi le fait de lutter contre les fake news qui sont depuis toujours véhiculées par la réaction, il faut dire, parce que l'histoire est faite par les vainqueurs, et dont la plus éclatante, c'est notre président Macron recevant Poutine à Versailles et disant que Versailles, c'est là que la République s'est réfugiée au moment de la Commune, alors qu'en fait, c'est là que la monarchie a détruit, a laminé la République qui était, elle, en train de se défendre à Paris. Donc il y a deux républiques. Ça aussi, ça sera un message. Quand on a, par exemple, une répression policière comme celle qui est manifestée par l'article 24 en ce moment, et qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui combattent ce gouvernement et sa politique rétrograde disent qu'on attaque la République à travers eux, ça me fait penser à ce que disait Pinochet, que, victime d'un attentat, qui disait qu'on avait atteint à travers lui la démocratie. C'est pas vrai du tout. La République, la véritable, c'est la démocratique et sociale, celle qui est dans notre Constitution et qui n'est pas représentée actuellement par ceux qui sont plutôt les héritiers des Versaillais. Voilà, je fais un peu de politique politicienne, mais je rappelle que dans notre association, on a le droit de faire le débat et de m'opposer des arguments contraires. On sera les bienvenus aussi, car nous sommes ouverts.
Merci, Jean-Marie Favière. Eh bien, rendez-vous tout au long de cette année 2021 pour repenser et agir en fonction de la Commune de Paris et des communes de province. Merci.
Merci pour votre invitation.
L'adresse du blog...
Ah oui.
Alors c'est Vaillantitude. Dès qu'on tape ça sous un moteur de recherche, comme il n'y a que moi qui ai un nom aussi bizarre, on trouve tout de suite, alors c'est blogspot.fr, oui. Mais Vaillantitude vous mène à tout.
Ah bon. Oui, moi c'est ce que je fais, hein. Moi qui suis béotien sur Internet, je tape Vaillantitude et j'ai tout de suite votre œuvre, Jean-Marie Favière.
C'est la nôtre, elle est collective. Hein, tout ce qui est de la commune est collectif, Michel.
Oui, oui, tout à fait. Bien.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance. Et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. On les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Eh bien, nous nous trouvons aussi devant une contradiction pour ce 150e anniversaire de la Commune de Paris. Les amis de la Commune, avec le mouvement social, qui est une revue aussi sur l'histoire du mouvement ouvrier, ont fait un agenda comme on dit collector, vive la commune pour 2021, mais c'est pas l'agenda de poche pratique hein, que l'on traîne avec soi pour noter tous les rendez-vous. Eh bien, c'est l'équivalent d'un livre, mais avec une grande iconographie. Par exemple, il y a des reproductions d'artistes avec ce texte. La commune est une source d'inspiration pour bon nombre d'artistes contemporains. Il y a ce qui est vraiment intéressant, la carte de France avec les communes de province, avec un petit drapeau pour celles qui se sont vraiment déclarées communes et puis celles où il y a eu des mouvements de sympathie. Et nous notons par exemple que Vierzon, Bourges, Sancoin sont notés et proches de chez nous, sur le Val-de-Loire ou peu s'en faut, il y a Montargis, Cône, Pouilly, La Charité, Nevers, par exemple, et puis également Moulins et Montluçon. Et puis il y a une carte de Paris avec les différents arrondissements, avec les forts et les remparts de Paris qui n'ont été détruits qu'en 1914. Et puis il y a des photos sur l'activité des amis de la commune, il y a des caricatures, il y a des dessins de nombreux artistes, encore une fois, mais de l'époque, ce ne sont pas des articles contemporains. Nous avons une photo de Victor Hugo, qui, s'il n'a pas été communard, a défendu la mémoire de la commune, et notamment la réhabilitation quand il était à la Chambre des députés. Les femmes sont bien sûr mises en évidence, et puis donc des moments de cette commune de Paris, de très beaux portraits par Ernest Pignon. Ernest qui est vraiment l'auteur, le dessinateur contemporain le plus en vue et le plus connu. On parle également des journaux. Alors bien sûr ça fait agenda, mais le plus important, je pense, C'est toute cette iconographie. Et bien sûr, il faut un autre agenda plus pratique, hein, mais ça serait bien que ceux qui veulent mieux connaître la Commune de Paris, eh bien, le demandent. J'en ai 20 pour tout le département du Cher. Une misère, pourrait-on dire, mais ça coûte quand même 17 euros pour toutes les pages, pour 365 jours, alors que la Commune n'a duré que 72 jours. Mais vous pouvez me le demander, comme je dis d'habitude. Je suis dans l'annuaire à Villabon. Je peux me déplacer si cet agenda, cet album, on peut dire, du mouvement social et des amis de la Commune vous intéresse.
Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dans son lac Armagnol, vive le son, vive le son. Dans son lac Armagnol, vive le son du canon.
À Versailles, dans le chantier, leurs soldats ont fait leur métier. À coups de sabre et de fusil, ils ont assommé nos amis. Leurs soldats, à présent, ont une odeur de sang.
Dansons la communarde, et de long bon, et de long bon. Dansons la communarde, et de long bon, nom de nom.
Que voulions-nous, la liberté et le bien de l'humanité? Pour nous venger des chenapans, il nous faut faire des enfants, en faire des gaillards et de francs communards.
Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom.
Le peuple va tous les 5 ans se couronner un président qui s'assoit sur le parlement et caresse les gens d'argent. Il danse à la télé, chasse dans les cités.
Chantons la communarde et ça ira, et ça ira. Chantons la communarde, tournons le cul à ses rois.
On nous prend pour des demeurés, des chats sauvages ou du gibier. La République des rentiers fait le ménage dans l'escalier. Pas de jeunes au premier, de pauvres ou d'étrangers.
Chantons la communarde, et ça ira, et ça ira. Chantons la communarde, tournons le cul à ses rois.
Égalité, fraternité sont des bruits de publicité. La liberté est emballée au rayon des supermarchés. Il pleut des boniments, des discours et du vent.
Chantons la communarde, et ça ira, et ça ira. Chantons la communarde, tournons le cul à ses rois. Chantons la communarde, et ça ira, et ça ira. Chantons la communarde, tournons le cul à ses rois. Chantons la communarde, et ça ira, et ça ira. Chantons la communarde, tournons le cul à ses rois. Chantons la communarde, et ça ira, et ça ira. Chantons la communarde.
Eh oui, chantons la communarde. Eh bien, avec Jean-Marie, nous avons évoqué le hors-série, l'histoire, les collections, la Commune, le grand rêve de démocratie directe, avec, je dirais, des historiens qui se sont intéressés à cette Commune. On a parlé de Robert Tomps, il y a également Quentin Guilliermoz, on a parlé aussi de Jean-Louis Robert, Michel Vinocq, etc. Alors, Godineau, Michel Cordillo, qui est notre voisin de Lyon. Si ça vous intéresse, c'est dans les kiosques, 6,90 €. Et puis encore une fois, bonne année 2021.
Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte,
ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu
que la commune n'est pas morte.